9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, AVS, à votre santé, ça commence mal aujourd'hui. Le docteur Régina Lalouche est là. Comment ça va, docteur ?
T'es très bien, Philippe.
Quand je dis que ça commence mal, c'est qu'on va parler de choses. Voilà.
Ah bah oui, ça,
reprise en main, les enfants. Déconfinement. Tout le monde a pris 2 kilos ou 3, même plus. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et que votre dernier livre, que vous montrez à la caméra, puisque l'émission est enregistrée, s'appelle « La méthode hépato-détox, mince durablement et sans danger grâce au foie » chez Albin Michel. Or, il y a une étude qui dit que les Français ont majoritairement grossi pendant le confinement et qu'ils auraient pris 2,5 kg en moyenne. Et vous, Doc ?
Moi, c'est l'inverse. J'en ai profité pour faire de l'exercice. En fait, le problème du confinement, c'est le problème de l'exercice. Cela étant, c'est une moyenne parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité du confinement pour suivre sur leur smartphone des cours de musculation. Si, Philippe, je vous assure, il y a des gens qui ont eu le courage de le faire.
Bah, je sais qu'il y en a qui l'ont suivi, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'aimerais bien avoir les chiffres, au contraire, de savoir vraiment la réalité de ce qui s'est passé.
La réalité, c'est que je pense que ceux qui ont tendance déjà dans la vie quotidienne à ne pas inscrire l'exercice physique comme activité, eh bien, eux, je pense qu'ils ont dû prendre un peu de poids. Parce que, en fait, il n'y a pas 36 solutions. L'homme, aujourd'hui, il est le fils et le survivant de milliers d'années de survivance où son organisme a été habitué à stocker. Mmh. Parce que celui qui ne stockait pas il y a 2 siècles, il mourait, il n'avait aucune descendance. Donc en fait, les gens aujourd'hui, je dirais presque bénis, les femmes bénies, c'est celles qui étaient capables de garder les calories qu'elles mangeaient, parce que comme ça, elles pouvaient donner de la descendance et avoir la descendance. Aujourd'hui, les choses ont changé. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'agriculture, la mécanisation, l'urbanisation pour la distribution, les pesticides ont fait que les rendements agricoles ont explosé et qu'aujourd'hui, manger n'est plus un problème. La plupart des pays où il y a des problèmes pour manger, c'est des pays qui sont en guerre, où il y a des conflits locaux. Mais manger n'est plus vraiment un problème. Mais ça dépend ce qu'on mange aussi. Donc cette survivance, elle nous a donné, donc on est aujourd'hui les survivants, on stocke et on ne sait pas déstocker génétiquement.
Mmh. Mais là, si on le rapporte au confinement,
donc,
les gens ont stocké. Non, mais
voilà.
Les gens ont stocké. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont stocké de la nourriture.
Exactement, ils ont stocké. Et comme ils n'ont pas fait marcher leurs muscles, puisque je rappelle quand même que la masse musculaire moyenne, c'est 70% de votre poids. Donc, ces 70% n'ont pas bougé, n'ont pas brûlé les calories nécessaires pour compenser le fait que, on mange. En plus, vous savez, il y a une dimension émotionnelle dans le confinement. Mettez-vous à la place des auditeurs, des auditrices qui entendent qu'il y a un virus qui vient de loin, qui est extrêmement agressif. Il y a eu un stress majeur pour les gens. Et vous savez qu'une très belle façon de compenser le stress, c'est de manger du sucre particulièrement. D'accord ? Donc il y a eu la conjonction de beaucoup de facteurs. Il y a eu aussi le ramadan, qui a été un facteur aussi, parce que c'est difficile, quand on casse le jeûne le soir, de ne pas se prendre une touche sucrée. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que, probablement, la conjonction des deux a fait que les gens ont pris un peu de poids.
Oui,
mais ça, c'est pas un problème.
Oui, mais globalement, les gens ont aussi beaucoup plus cuisiné. Donc voilà, quand on cuisine, on fait honneur au plat qu'on a fait.
On fait honneur au plat qu'on a fait, mais encore une fois, je pense qu'il faut choisir ce qu'on mange. Il faut pas faire uniquement des choses grasses et sucrées. Il faut essayer de considérer qu'il y a dans la semaine des moments de bonheur et des moments de joie où on partage. Et puis une routine saine qui permet de ne pas tomber malade et de ne pas avoir de problème ni de diabète, ni d'hypercholestérolémie, ni d'hypertension, et j'en passe.
Bien. Pour vous, les médecins nutritionnistes, c'est le prime time. Puisqu'il y a toujours, et c'est la même chose tous les ans, à la même époque, avant les beaux jours, eh bien, les gens viennent vous voir. Quelle est leur demande ?
Alors, ça c'est une question piège, parce qu'en fait...
Leur demande,
c'est avant l'été, souvent, mais c'est plutôt... Ça concerne plutôt, je dirais, les revues, les sites internet, c'est-à-dire perdre des 3-4 kilos qui vont permettre d'être beau sur la plage. Voilà. Et ça... Vous savez, il y a des gens qui se drapent dans la science en disant « Oui, mais enfin, franchement, mais ça veut dire quoi perdre 3-4 kilos pour être beau ?» Je suis désolé, pour être beau dans sa tête, c'est être bien dans sa tête. Et être bien dans sa tête, c'est très très important pour faire une nation heureuse. Et donc, s'il faut perdre 3 kilos pour être heureux sur la plage, ben, perdons-les. C'est pas très compliqué à perdre. Parce qu'on a tous 3 kilos de trop. Tous ceux qui nous entendent le savent. Ils ont tous 3 kilos de trop. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société très urbanisée, on prend sa voiture, on prend le métro, on prend le bus. Alors même si c'est très fatigant, ben c'est pas avec ça qu'on va brûler des calories. Mmh. Et quand on rentre le soir et qu'on est crevé, eh ben on se prend un petit bout de ceci, un petit bout de cela, un petit bout de pain avant de préparer le... Donc il y a toutes des habitudes qu'on a intégrées qui font qu'on doit se faire plaisir, parce que sinon c'est un peu compliqué. La vie en ville est compliquée. La vie en ville est compliquée et on la compense par des grignotages souvent. Au bureau, à 11h, au moment où à 11h, votre foie, il doit justement déstocker le stock de sucre pour son cerveau, eh bien à 11h, il y a les chouquettes, il y a les trucs, les petits chocolats et on compense cette faim. Donc, en fait, perdre 3 kilos, ben, c'est très sain.
Ça paraît pas beaucoup, 3 kilos, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement pas créer de dégâts ?
Alors, écoutez, 3 kilos, je vais vous dire. C'est pour quelqu'un de 60 kilos, 3 kilos, c'est 5% de son poids quand même.
Ah ouais.
5% de son poids, mais ce qu'il faut, c'est perdre 5% de graisse et de gras, pas 5% de muscles. Et il faut savoir que tous les régimes très restrictifs, où on diminue tout, où on est monodiète, par exemple, on va dire pendant 3 semaines, je mange que du raisin ou de l'ananas, eh ben ça va, vous allez perdre du muscle. Alors que ce qu'il faut, c'est pas perdre du muscle, c'est en faire au contraire et perdre de la graisse. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez être efficace, eh bien, il faut un peu réduire ce que vous mangez et changer un peu le profil de ce que vous mangez. Par exemple, peut-être remplacer les féculents par des légumineuses. Calibrer vos plats. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que quand on mange dans une petite assiette, on mange moins que dans une grande assiette. Parce qu'on a tous été élevés pour finir notre assiette. On l'a tous entendu. Et puis, je ne vais pas jeter. Il ne faut pas jeter.
Ouais,
voilà, parce que si on jette... Alors que, moi je suis désolé, je pense que quand on a le signal de satiété... Et d'ailleurs, c'est un peu un message que je donne aux mamans. Quand vous dites à votre enfant, fais plaisir à ta maman, finis ton assiette. Vous lui dites, n'écoute pas tes signaux de rassasiement et tes signaux de satiété pour me faire plaisir. Ça, il ne faut pas. Parce que il faut un enfant, il sait se réguler. Il a plus faim, il arrête et on jette. Et non, on le transportera pas dans des pays où on a besoin, parce que ça c'est interdit par la loi, je vous le rappelle, pour des raisons d'hygiène et de bactériologie. Donc de toute façon, faut pas les culpabiliser. S'ils ont plus faim, on arrête de manger. Avec une remarque tout de même, c'est qu'aujourd'hui les enfants ont du pouvoir d'achat. Et que souvent, à la sortie de l'école, ils sont capables de s'acheter des bonbons, des chips, des machins, des trucs. Et le soir, ils ne mangent pas parce qu'ils sont déjà remplis. Donc bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais ce qu'il faut pour perdre ces 3 kilos, c'est donc revenir à des proportions, de bonnes proportions. Par exemple, il y a un petit bol qu'on appelle le bol chinois. Vous savez, un petit bol, ce n'est pas le gros bol où on prend son café au lait. Et ben, un bol chinois, par exemple, de légumineuses. Qu'est-ce qu'il y a dans les légumineuses ? Vous avez les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges. Eh bien, vous remplacez votre portion de féculents. Je rappelle, les féculents, c'est les pommes de terre, le riz et les pâtes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Mais si on veut perdre 3 kilos, on les remplace par des légumineuses. C'est un avantage aussi, c'est moins cher. Parce que les légumineuses, ce n'est pas cher du tout. Donc, en fait, vous voyez...
Les pommes de terre, ce n'est pas cher non plus.
Les pommes de terre, ce n'est pas cher non plus. Mais
et les pâtes non plus, quand on y pense.
Les pâtes non plus, à ceci près, c'est que... d'abord, les pommes de terre, c'est très difficile d'en manger qu'une. On en mange en général plus qu'une. Ouais. Et puis, les pâtes, il vaut mieux des pâtes complètes. Donc elles sont un peu plus chères que les pâtes blanches, qui sont que juste du sucre, surtout si elles sont trop cuites. Je rappelle que des pâtes, c'est pas des nouilles. Les nouilles, vous savez,
c'est quoi la différence ?
Ah, les nouilles, c'est des pâtes trop cuites. C'est-à-dire qu'en fait, les nouilles, c'est la façon de manger. Par exemple, vous allez dans un restaurant d'entreprise, où vous avez des pâtes qui sont là depuis à peu près une demi-heure, une heure. Eh ben, elles ont été trop cuites. Et comme elles ont été trop cuites, c'est très simple à comprendre. Quelle est la différence entre du sucre en poudre et des féculents comme les pâtes, le riz ou les pommes de terre ? C'est que c'est la même chose, c'est du glucose, mais qui est organisé avec une matrice. Et vous comprenez bien que si donc l'amidon, qui est ce sucre collé dans la pomme de terre, le riz ou les pâtes, si vous cuisez trop longtemps, à ce moment-là, vous découpez les liaisons entre tous ces sucres et ça revient à manger du sucre en poudre. Mmh. Vous comprenez, c'est ce qu'on appelle les index glycémiques. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que ça vous permet de comprendre qu'il ne faut jamais écouter les gens qui vous disent « mange plus jamais ça, il faut supprimer ça ». Non, ce qu'il faut, c'est ces techniques de manger. Je suis désolé de le dire, aujourd'hui, il faut lire, il faut écouter vos émissions, il faut essayer de comprendre comment ça marche. Parce qu'il y a une telle offre. Mais nos arrière-grand-mères, paix à leur âme, reviendraient sur Terre. Mais franchement, elles auraient un vrai problème pour aller faire un choix. Quand vous voyez un linéaire de yaourt dans un hypermarché aujourd'hui, vous avez à peu près 20 mètres, 2 fois 10 mètres en moyenne. Alors qu'à leur époque, il y avait un yaourt. Les gâteaux, il y avait un gâteau. Il y avait les petits beurlus, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mmh. Aujourd'hui, ils sont en bas, parce qu'on privilégie d'autres gâteaux. Oui. Donc en fait, il faut comprendre ce qu'on mange. Et je reviens aux féculents. Les féculents, il ne faut pas trop les cuire. Les pâtes, c'est toujours al dente. Le riz, c'est le riz long grain, le riz basmati, pas trop cuit non plus, un peu croquant, pour que justement votre tube digestif fasse le boulot. Votre intestin, votre estomac va couper les molécules et votre intestin va avoir du temps pour le digérer.
Alors, le bol chinois, alors c'est vrai que pour certains, c'est pas beaucoup.
Non.
Pour ceux qui aiment bien manger, est-ce que finalement on est suffisamment calé?
Alors, c'est une excellente question. Le problème, c'est le remplissage, c'est la charge. C'est-à-dire qu'on a des habitudes alimentaires et un des problèmes, c'est la culture du pain. Vous savez que les Latins, le Maghreb également, est très attaché au pain. Le pain, qu'est-ce que c'est ? C'est la première forme de monnaie. Quand on avait des champs avec des céréales, eh ben, soit on les vendait sur pied ou soit on les vendait en grains, mais après, qu'est-ce qu'on a fait ? On les a broyés, on a cuit du pain, et le pain, à l'époque, on pouvait le garder une semaine, 10 jours, et on pouvait en faire une monnaie d'échange. Mmh. En fait, le pain, c'est une façon de monétiser les céréales. Le problème, c'est que ces céréales, sous forme de pain, c'est des céréales qui ont été fermentées, levées par la levure, et donc quand vous absorbez du pain, il est déjà prédigéré, et donc vous allez le stocker beaucoup plus facilement. En fait, le pain a été, pendant des siècles, une façon de nourrir les pauvres. Hein, je vous rappelle que beaucoup de plats de pauvres sont basés sur le pain. Que vous alliez en Italie au début du 19e siècle où le pâton de pizza, c'était ce qu'on achetait dans la rue. On achetait un pâton pour une unité, d'accord, un écu, et on mettait tout ce qu'on avait à la maison, on l'étalait, puis on mettait tous les restes. Et c'était robot.
L'invention de la pizza,
voilà.
L'ancêtre.
Mais en Tunisie, le bol de pois chiche avec de la rissa.
Bah attends, c'est la street food.
Exactement, c'était un sou. Donc, qu'est-ce que c'est un pois chiche ? C'est un très bon légume, c'est une très bonne légumineuse. Et il y avait quoi dedans ? Il y avait le pois chiche pour une partie de l'amidon, les sucres. Il y avait de l'huile. Il y avait de la rissa pour le rendre un peu funky. Ouais. Et c'était le plat du pauvre. Et on a ajouté le pain dessus. Donc, vous voyez, mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette économie-là. On est dans une économie où vous rentrez dans un supermarché, vous pouvez acheter des tas de choses qui sont des plats de fête. Et donc, le pain fait le remplissage. Et on a l'habitude d'avoir l'estomac rempli de pain. En plus, ça agit comme une éponge. Parce que quand vous avalez du pain et qu'il y a un peu de sauce, ça gonfle. Et donc, on a une...
Vous avez l'impression d'être calé, en fait.
Voilà. Ouais. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner pour reprendre le thème des 3 kilos, si vous le pouvez, réservez le pain le matin. Parce que le matin, le pain, il va être brûlé dans la journée. Parce que vous allez marcher, vous allez travailler, vous allez faire ce que vous devez faire dans la journée. Et donc, le pain n'aura pas d'incidence. Par contre, essayez de le diminuer, voire de l'arrêter. On parle des 3 kilos, hein, je ne parle pas en général.
Oui, oui, non.
Pour midi et le soir. À ce moment-là, et comment je remplis ? Eh ben, vous remplacez par des légumineuses. Vous mangez des légumes en abondance. Moi, mes conseils...
Alors, ça veut dire quoi ? Parce que, est-ce que ça veut dire qu'en abondance, ça veut dire qu'il faut se gaver de... Enfin, quand je dis gaver, de salade, que ça n'a aucune importance, qu'on peut manger autant de haricots verts qu'on veut, ou de épinards, que ça n'a aucune importance, ou pas, il faut quand même avoir la notion de quantité.
Alors, moi, je n'ai pas, en ce qui concerne les légumes et les légumes cuits, je n'ai pas de notion, je ne donne jamais de notion de quantité. Parce qu'il y a une variable très importante, c'est le fait de mâcher. Quand vous avez devant vous une jarre de légumes cuits, hein, et vous allez les mâcher, il faut bien les mâcher parce que bien mâcher, c'est aussi une des formes, un des points importants si vous voulez perdre du poids, c'est de bien mâcher. Je vous rappelle que le cerveau, il adore le plaisir, il n'est intéressé que par le plaisir. Et donc, quand on mâche, On a nos petits capteurs
sur le
bout de la
langue. Ça fait le plaisir de manger des haricots verts. Alors ça, c'est un plaisir.
Alors attendez, parce que je vais vous dire une chose.
Ouais.
Des haricots verts qui ont été... on a bien enlevé les fils. Des haricots verts où on a mis des aromates, où on a mis du paprika, on a mis des trucs. C'est pas pareil, on a mis des épices.
Je vous cherche,
oui,
mais voyez.
Mais je pense que le problème, c'est est-ce que vous avez décidé de prendre soin de vous ?
Moi, c'est vraiment ma question, c'est sur les quantités.
Oui.
Vous ne donnez pas d'indication de quantité sur les légumes cuits, on est d'accord ?
Ni sur les légumes crus.
Ni sur les salades, ni sur les.
Non, jamais. Jamais, parce que si vous commencez avec les quantités, vous devenez obsessionnel et ça ne marche pas. Moi, ce que je dis, c'est je veux donner des conseils simples. On est toujours dans les 3 kilos.
Ouais. Hein, les 3 kilos avant l'été, voilà. Parce que peut-être qu'on partira en vacances.
On va partir en vacances. Faut arrêter de. On va partir en vacances. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut surtout perdre du gras. Et pour perdre du gras, il faut faire ça d'un côté et de l'autre côté.
Alors
reprendre une salle de sport et recommencer à bouger. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui fait qu'on ne reprendrait pas ces 3 kilos, c'est de bouger.
Voilà, vous avez 3 kilos à perdre, ou peut-être un peu moins ou un peu plus. Vous pouvez interroger le docteur Alouche ce matin au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, le docteur Réginald Alouche est avec nous, médecin et nutritionniste. Je rappelle que vous avez publié récemment la méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger, grâce au foie, et c'est chez Albin Michel. Alors, on parle de ces fameux 3 kilos là, qu'il faut perdre, en tout cas que tout le monde a pris. Est-ce qu'il faut, alors je sais pas si on veut, est-ce qu'il faut, mais en tout cas, quand on se met au régime, il y a cette idée de finalement, faut faire attention parce que le régime, ça engendre des phénomènes de yo-yo. Mmh. Est-ce qu'il vaut mieux finalement rester avec ces 3 kilos et qu'on a pris trop, ou alors essayer de faire un régime qui va nous enfermer dans ce qu'on appelle le yo-yo?
Alors d'abord, je voudrais juste vous reprendre, Philippe.
Allez-y.
Vous avez dit « il faut ». Quand on veut perdre du poids, c'est « je veux ». C'est-à-dire que je veux perdre ces 3 kilos parce que j'en ai besoin pour mon image propre et j'ai envie de me sentir en meilleure santé. Mmh. Et là, ça va marcher. Si vous dites « il faut perdre 3 kilos », comme je l'entends, une espèce de sommation, ça ne marchera pas. Mmh. Vous ne ferez jamais quelque chose contre votre cerveau. Alors maintenant, la question que vous posez sur le yo-yo est très importante. Parce que le yo-yo, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est, je diminue ce que je mange, je me mets au régime. Peu importe les régimes, hein, on va pas rentrer dans des...
En tout cas, je me prive.
Voilà.
Je mange moins.
Je mange moins.
Voilà.
L'homme est un athlète de la survivance et de la survie, il a une petite glande au sein de son cerveau archaïque, qui est une petite glande qui n'est pas accessible par la raison ni par la volonté. C'est le noyau qui s'appelle, je suis désolé, mais c'est le noyau arché. Pour ceux qui vont sur Internet, c'est arch nucleus. Et ce noyau, c'est comme ma montre, il compte. Il compte les calories de façon indifférenciée. Les lipides, les protides, les glucides, il compte. Et puis vous allez lui diminuer sa ration. Et lui, il va se dire, oh là là, je vais être en danger, je vais mourir. Donc, il va mettre en place des processus de compensation. Donc, vous me suivez ?
Oh ouais,
processus de compensation.
Bon.
Parce que lui, c'est lui qui nous a permis qu'on soit qu'on survive à des dizaines de milliers d'années où il y a eu des famines, des maladies, des machins, des trucs. Donc, vous diminuez vos quantités. Mais ce qu'il faut, ça va réussir. Vous allez perdre 3 kilos. Ça fait en un mois et demi, deux mois normalement, si vous réduisez un peu les féculents, si vous faites un truc, voilà. Mais si vous ne faites pas d'exercice physique, qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes content, c'est l'été, allez, petit coup de machin, de petit barbecue, les jus, les trucs. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que quand vous perdez du poids, vous devez perdre du gras, pas du muscle. Je vous rappelle que les deux seuls endroits où on perd des calories, où on brûle des calories, c'est dans les muscles. Un kilo de muscle brûle tous les jours, sans bouger, à l'arrêt, 30 calories par jour, pour rester en vie. Mmh. Et le cerveau...
Ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme.
Exactement. Le métabolisme de base, c'est en gros l'activité du cerveau, qui est très importante et qui est très consommatrice d'énergie pour l'homme. C'est pour ça qu'il faut faire exercer son cerveau tout le temps. Et c'est la meilleure façon d'être anti-âge. Et puis, c'est de faire de l'exercice physique en brûlant des calories. Donc, je reprends mon petit scénario. Vous avez diminué votre ration alimentaire, vous avez perdu 3 kilos, mais vous avez perdu pratiquement 80% de muscles. Donc vous avez baissé ce que vous brûlez tous les jours sans bouger la nuit, par exemple. Quand vous dormez, vous brûlez des calories pour rester en vie. Et donc, quand vous allez sortir de ce, entre guillemets, régime, eh bien, vous allez remanger. Et qu'est-ce que va faire l'organisme ? Parce que c'est un survivant, il va stocker un peu plus. Parce qu'il va, sans brûler la différence. Donc, en fait, vous allez, en général, reprendre votre poids, et parfois avec un petit plus.
Le delta.
Le delta qui est là pour faire un peu de stock, parce que votre cerveau, et tous les gens qui nous écoutent savent très bien qu'il est de plus en plus difficile de perdre de poids avec l'âge, c'est que votre cerveau, il a la mémoire de ça. Et parce qu'un régime, c'est dur pour un cerveau. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. Quel que soit le régime que vous faites pour perdre du poids, parce que vous avez un risque de prédiabète ou de diabète, parce que vous avez du cholestérol, parce que, peu importe, ou de l'hypertension, faites une chose. Faites bien attention à une chose. Il faut que le poids, le nouveau poids, vous l'ayez au moins pendant 9 mois. Pourquoi ? Parce que la petite glande dont j'ai parlé, elle est temporisée. C'est-à-dire que elle veut être sûre que ce nouveau poids sera un poids qui vous permettra de survivre, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que les entrées et les sorties seront équilibrées. Et toutes les erreurs de régime, c'est qu'au bout de 2-3 mois, on est content, on se lâche, on reprend le truc, et on n'a pas maintenu ses muscles, et on n'a pas attendu les 9 mois. Il faut attendre, c'est comme une grossesse, la perte de poids.
C'est la première fois que j'entends ça. Donc, homéostasie.
Oui.
Et maintenir son poids pendant 9 mois. Alors, comment on fait pour ne pas perdre de muscles et taper dans les graisses ? Est-ce qu'il y a une technique ?
Ah oui, il y a une technique. Il y a une technique, c'est celle de diminuer tout ce qui est trop de sucre. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai insisté sur les légumineuses, remplacées par les féculents par les légumineuses. Pourquoi ? Je veux dire, c'est très simple. Parce que, alors, les légumineuses ont une mauvaise image parce que le plat de lentilles, les pois chiches, je suis désolé, ce sont de très très bonnes sources d'amidon, mais parce qu'il y a une différence dans l'amidon. Et ça, c'est une notion que je voudrais m'apesantir là-dessus pour nos auditeurs, nos auditrices. L'amidon, qu'est-ce que c'est ? C'est du sucre, puisque le carburant de l'organisme, c'est le sucre, le glucose. C'est du glucose attaché, d'accord ? Mais comment est-il attaché ? Et donc, il y a l'amylose et l'amylopectine. Je suis désolé, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc, l'amylose, c'est une structure en hélice. Et donc, quand vous l'avalez, à ce moment-là, il faut découper l'hélice et il faut prendre le... Ça prend du temps. Si ça prend du temps, c'est que le sucre, il va rentrer doucement dans le sang. Et votre foie et votre pancréas, ils auront le temps de le traiter. Et l'amylopectine, c'est un arbre comme un cerisier, puis ça tombe. Donc, c'est très facile de secouer l'arbre et d'aller prendre le sucre. Et vous comprenez bien que la richesse en amylopectine va conditionner le fait que si c'est trop facile, ça va rentrer dans le sang très vite, une sécrétion de l'hormone de l'insuline, et à ce moment-là, eh ben, on prend du poids, on ne métabolise pas très bien. Ça, c'est très très important. Et comme par hasard, les légumineuses, c'est 50% d'amylose, 50% d'amylopectine. Les féculents, comme la pomme de terre, c'est 90% d'amylopectine. Donc vous comprenez bien que le simple fait de panacher, plutôt que de manger 4 pommes de terre, d'en manger une et de faire que le reste on le fait en légumineuse, eh ben ça va totalement adoucir la courbe d'augmentation du sucre et donc de stockage. Donc si vous voulez perdre ces 3 kilos, il faut un peu diminuer les féculents riches en amylopectine. C'est très facile sur internet, il y a toutes les listes. D'ailleurs même dans le riz, on conseille le riz basmati et le riz long grain, parce qu'ils ont une plus grande richesse en amylose. Donc, choisir plutôt les amidons avec l'amylose. Vous voyez comme quoi dire « mangez plus ci, mangez plus ça, ça n'a aucun intérêt ». Il faut, je suis désolé, c'est de la science, c'est de la technique. Il faut rentrer dans la science et la technique. Vous comprenez bien aussi qu'il y a un siècle, quand tout le monde avait besoin de manger, on s'en fichait complètement de l'amylose et de l'amylopectine. On faisait des patates, parce que les patates, c'est pas cher. On mangeait du pain. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens sont assiégés par la bouffe. Assiégés. C'est, vous sortez dans la rue, les magasins, il n'y a que des supermarchés, des supérettes et ainsi de suite. On n'en sort plus. Et maintenant, il y a même des magasins qui lancent des odeurs. Donc le matin, on lance des odeurs de café pour vendre des croissants. À midi, on va mettre de l'odeur de poulet. On va vous faire rentrer et manger. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment se prendre en main et essayer de comprendre. Écoutez vos émissions, par exemple. Je ne parle pas de moi, mais écoutez des émissions sur la santé. Parce que ça, il faut le transmettre à vos enfants. Il ne faut pas que vos enfants soient victimes de ça. C'est très important. Le diabète, aujourd'hui, est une maladie pandémique. Alors, je veux bien le coronavirus. Bien sûr que c'est terrible. Mais le diabète, c'est aussi terrible. Enfin,
le diabète tue plus que le coronavirus.
Beaucoup plus, ça n'a rien à voir.
On n'est pas du tout dans la même...
Exactement, on ne joue pas dans la même cour.
Maladie silencieuse...
Et insidieuse, parce qu'il n'y a aucun symptôme.
Bon, alors là on a en gros notre bol.
Le bol chinois.
Oui, le bol chinois, ça me fait rêver déjà, le bol alimentaire. Sur la fréquence des repas, on garde les 3 repas par jour ?
Alors moi, je suis un adepte de la collation l'après-midi. La collation l'après-midi...
Du goûter, donc, vous voulez dire ?
Attendez.
Ce qu'on appelait le goûter, nous, non ?
Voilà. Ouais. C'est une boisson chaude, ce que vous voulez, et puis une pomme ou une poire. Pourquoi ? Parce que vous allez préparer le repas du soir. Les citadins sont des gens qui mangent tard le soir. Et quand ils rentrent, ils ont vraiment faim, quoi. Ils crèvent de faim. Et quand vous crevez de faim... Vous avez beau avoir écouté toutes les meilleures émissions et lu tous les bons bouquins,
vous
prenez le pain et le fromage et vous y allez. Et on est tous pareils. Donc, il faut préparer le repas du soir. Il ne faut pas se laisser piéger par notre inconscient. Donc, je recommande une petite collation. Et si en plus, vous pouvez prendre 15 minutes pour vous laisser aller, couper votre téléphone, faire baisser la pression, c'est très bien. Parce que je rappelle que l'anxiété... est génératrice d'hyperglycémie, le cortisol par exemple. Le cortisol, c'est l'hormone de combat. Donc quand on est vraiment très stressé, on a du cortisol. Le cortisol, c'est comme la cortisone, tout le monde sait que la cortisone, ça fait grossir. Et bien si on a trop de cortisol, on va commencer à faire du sucre. Le foie va libérer son sucre et à ce moment-là, vous aurez des problèmes. Vous savez, c'est comme ces patients en diabétologie qui vous disent « Mais docteur, j'ai une glycémie le matin à 1,40, 1,50, 1,60. Je vous jure que j'ai rien mangé la veille de terrible. » Ils ont raison. Ce sont des gens honnêtes. La réalité, c'est que pendant la nuit, comme ils n'ont pas assez d'insuline, leur foie, il a généré du glucose. Et en plus, comme le matin, vers 6-7 heures, pour vous réveiller, vous avez ce pic de cortisol qui est l'hormone de guerre pour que vous soyez en forme. Le cortisol est injecté et à ce moment-là, vous avez aussi un pic de glycémie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui n'ont pas faim le matin, qui me disent « je ne peux pas manger le matin » parce qu'ils ont déjà une glycémie qui a augmenté le matin parce que le soir, ils ont fait, pendant la nuit, leur foie n'a pas a fait du sucre. Voilà, donc j'explique tout ça, ça paraît un peu compliqué, je suis désolé, mais c'est ça la réalité. Donc c'est pour ça que lorsqu'on veut des bons conseils, il faut comprendre, il faut lire, il faut essayer de le transmettre à ses enfants pour les libérer de tout ça.
Alors, je reviens sur les légumineuses dont vous parlez et dont vous vantez les qualités régulièrement. Vous dites que par exemple sur les pâtes et le riz, la cuisson c'est important.
Ah oui.
Est-ce que pour les
on est dans les féculents. Hein.
Voilà. Mais est-ce que pour les légumineuses donc la cuisson a une importance? Par exemple les pois chiches, il faudrait eux aussi les manger al dente. Bon, pour les c'est pareil pour les lentilles. Des fois on a tendance à les faire un peu trop cuire les lentilles. Donc alors est-ce que pareil il faut les manger al dente pour réduire l'index
glycémique
et finalement avoir un meilleur résultat.
Oui, tout à fait. Il faut les manger un peu croquants. D'abord, c'est meilleur. En plus, on mâche. On prend l'habitude de mâcher. Donc, il faut de bonnes dents. Donc, il faut aller voir son dentiste tous les ans pour se faire détartrer les dents et voir si on n'a pas des déchaussements de gencives. Donc, on ne les cuit pas trop. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est très important dans les légumineuses, c'est les fibres. Parce que les légumineuses sont très riches en fibres. Et donc d'abord les fibres, c'est très bon pour les gens qui ont tendance à la constipation ou parfois un peu la diarrhée parce que ça donne un bol.
Ça marche dans les deux sens.
Voilà, ça marche dans les deux sens. Et puis elles ont des vitamines. Elles sont vraiment, c'est vraiment très injuste ce qui se passe aux légumineuses avec les légumineuses parce que elles n'ont pas bonne presse. C'est des plats de pauvres. Plat de lentilles célèbre, avec.
Non, mais attends, aujourd'hui, une salade de lentilles, c'est délicieux.
Et ben voilà. Et donc, il faut qu'elles soient un peu al dente, un peu croquantes, comme les pois chiches. C'est très bon, les pois chiches un peu croquants. C'est plutôt que du truc tout mou qui fond dans la bouche. C'est.
Est-ce que les qualités que vous donnez aux pois chiches sont les mêmes dans le houmous, par exemple? Alors, à la mode.
Le problème du houmous, c'est qu'il y a beaucoup d'huile. Il y a beaucoup d'huile. Et donc, vous allez avoir le couple extraordinaire de huile plus sucre, plus glucose. Ah oui. Vous voyez ? Donc le houmous, de temps en temps, pour se faire plaisir, 1000 fois d'accord. Tous les soirs ou tous les matins, je ne suis pas d'accord. Parce que...
Alors, mais s'il est frais et qu'on le prépare soi-même ?
Il est frais et on se prépare soi-même, mais ça dépend si on a un petit ventre ou on n'a pas un petit ventre. Vous comprenez ?
On va parler du petit ventre après.
Ce que je dis, c'est que si vous avez un adolescent, un ado qui est mince, c'est une chaudière. peuvent aller. C'est comme une locomotive au Brésil il y a 50 ans. On mettait du pétrole, on mettait n'importe quoi, ouais. ça tournait.
Ça brûle.
Ça brûle. Mmh. Un ado, ça brûle. Donc, tout ce que je dis, un ado qui fait du sport, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous savez très bien, quand vous remplissez un frigo, vous avez des ados à la maison, le frigo, il se vide facilement. Mmh. Maintenant, si vous avez 50 ans, un petit peu de ventre, vous êtes un peu machin et que vous n'êtes pas un grand adepte des salles de sport, pas de houmous tous les soirs, je suis désolé. C'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez pas manger plus que ce que vous brûlez. Voilà. Mmh. Si vous mangez plus que ce que vous brûlez naturellement, vous allez grossir.
Tiens, c'est la première fois qu'on a une Enora sur Beurre FM Monde International. Enfin, en tout cas, Enora est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue, Enora.
Bonjour, Philippe. Bonjour, docteur.
Bon. C'est Enora ou Nora ?
Nora.
Oui, c'est bien ce que je me disais, c'est Nora. Nora.
N-O-R-A, oui. Voilà, docteur, je suis en manque de fer, donc je prends Tardiféron.
Oui.
J'aime pas tellement prendre ce médicament. En plus, ça fait longtemps que je le prends.
Oui.
Je mange des pois chiches. Oui. En fait, je les mixe.
Oui.
Est-ce que j'aime pas trop les manger, vous savez,
croquant.
Comme ça. Pour avoir un peu d'énergie, parce que je manque vraiment d'énergie.
Oui.
Le docteur m'a dit de prendre les lentilles, mais je ne suis pas trop pour les lentilles.
Est-ce que c'est riche en fer, oui.
À part les pois chiches, est-ce que j'aimerais bien arrêter Tardiféron.
Mm-hmm. Alors écoutez, d'abord, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous manquez de fer ?
Ben, le docteur croyait que j'avais perdu du sang. J'ai fait la coloscopie, mais ça ne vient pas de là.
Oui.
Et donc, c'était plutôt par rapport à mes règles.
Vous avez des règles abondantes, donc vous perdez. Voilà, d'accord. Ok. À ce moment-là, effectivement.
Mais en fait, je n'ai pas d'énergie, en fait.
Oui. Et tous les autres examens sont normaux ?
Oui.
Oui. Donc, vous manquez d'énergie et vous avez.
J'ai envie de dormir. Et puis, le ramadan et le confinement, il n'a pas trop. Ça m'a encore plus.
Oui.
Fatigué.
Oui, parce que comme je ne dormais pas la nuit.
Oui.
Au début, je dormais la nuit, et après, avec le ramadan, je dormais plus.
Oui, c'est plus difficile, effectivement. Mais vous avez bon moral, madame ?
Oui, oui.
Oui, ça va, il n'y a pas de problème ? Pas de problème particulier ?
Non, non.
Bon, alors l'énergie...
Je mange chocolat à 4 heures, je suis en forme, mais...
Oui. Est-ce que vous faites de l'exercice physique, madame ?
Je fais de la gymnastique et du yoga, mais pour l'instant, là, c'est fermé depuis le mois de mars.
Oui, d'accord.
Les profs ont dit jusqu'en septembre. Avec le confinement, je marchais qu'un peu, là, qu'on avait le droit pendant une heure, quand j'étais en forme, parce que, en fait, je suis pas en forme. On m'a parlé des graines germées, mais j'aime pas tellement non plus.
Oui.
Je suis un peu difficile au niveau de la nourriture.
Oui. Vous avez quel âge, madame ?
42,
donc vous êtes jeune. Ok, donc écoutez, c'est difficile à distance comme ça sans voir les autres constantes biologiques. Moi, je pense que effectivement, vous pouvez tout ce qui est lentilles, pois chiches seraient de bons aliments pour redonner effectivement de l'énergie parce que ce sont des aliments qui sont riches en amidon et avec le bon amidon, l'amylose. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'oligo-éléments, de fer, de zinc. Donc vous pouvez continuer comme ça. Le problème du Tardiféron, effectivement, c'est que bon, il y a quelques inconvénients qu'on décrivera pas à la radio. Mais je pense que tout va dépendre de la quantité de fer dont vous manquez. Et puis, j'aurais besoin aussi d'un indicateur qui, vous savez, le coefficient de saturation de la transférine et la ferritinémie, parce que c'est ça qui nous donne l'indication sur ce que vous avez. S'il n'y a pas de saignement, il faut peut-être explorer un peu plus.
Alors, Nora, vous restez en ligne avec nous. On parlera des compléments alimentaires, parce qu'il y a des compléments alimentaires pour le faire. Vous nous direz ce que vous en pensez, docteur Allouche, dans un instant. Et puis, on parlera de ce petit ventre dont vous avez gentiment commencé à parler. Le petit ventre, là, voilà. 01 53 48 3000, si vous voulez interroger le docteur Allouche. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Avec le docteur Allouche qui est avec nous, vous êtes médecin nutritionniste. Alors on est avec Nora qui vous appelait pour le faire. Je vous interrogeais sur les compléments alimentaires, mais Nora, ce que vous prenez, c'est déjà un complément alimentaire, c'est ça ?
Oui.
Ouais.
Oui, Tardiféron, c'est un complément, c'est un médicament, mais un complément alimentaire, ça apporte du fer. Voilà.
Mais je prends aussi d'autres vitamines, parce que tellement que je ne suis pas en forme.
Lesquelles ?
Je sais. Ben, c'est un mélange de A, B, C, D.
Alors, oui.
J'ai demandé à la pharmacie. Oui. Il y a toutes les vitamines, normalement.
Oui. Alors, un petit conseil pour les vitamines.
Oui.
Il faut souvent les compléments alimentaires comme ça, où il y a un certain nombre polyvitaminés, hein, ABCDE, il faut, ABCD, il faut qu'elles soient plus dosées. Il faut faire attention parce que souvent c'est très très micro-dosé. Par exemple, dans ABCD, vous allez avoir C à 100 mg. Donc il faut bien lire ce qu'il y a dedans. Et je préfère 100 fois, par exemple, recommander de prendre de la vitamine D à dose suffisante, de la vitamine C à dose suffisante. Et du zinc, le zinc qui a été très, qui est célèbre maintenant avec le coronavirus, parce que c'est le zinc, c'est un complément alimentaire indispensable pour l'immunité, comme la vitamine D. Je crois que le zinc et la vitamine D, c'est vraiment les deux compléments alimentaires que je recommande. Alors pour la vitamine D, il y a deux types. Il y a ceux qui proposent des ampoules, vous savez, à 10 000, 20 000, 30 000 unités, qu'on prend une fois par semaine ou une fois par mois, ou une fois tous les deux mois. Moi, je préfère la vitamine D tous les jours.
Mais quand il fait beau comme ça, est-ce qu'on a besoin de prendre de la vitamine D?
Ah oui, parce que
oui,
parce qu'on est couvert. Je vous le rappelle, en ville on est couvert, donc la surface offerte au soleil est très faible. Je rappelle aussi qu'on vit dans des villes où il y a des immeubles, donc on est très peu touché par la lumière, et donc à moins d'être sur une plage et d'être de se balader et de faire attention à sa peau quand même aussi. Vous savez, c'est compliqué, hein. Donc la vitamine D aujourd'hui. La majorité des Français sont carencés en vitamine D. Majorité. D'accord ? Donc, et la vitamine D, elle intervient dans beaucoup, beaucoup de processus, dans l'immunité, dans la vitalité aussi, dans l'humeur. Humeur et immunité. Hein. Donc, c'est important d'avoir un bon dosage. Et d'ailleurs, je recommande, pour ceux qui nous écoutent, de demander à leur médecin de leur faire une petite prise de sang pour savoir où ils en sont du point de vue de la vitamine D.
Un dosage.
De la vitamine D.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire, Nora, ce matin.
Merci Philippe, merci docteur.
Merci, gros bisous Nora.
Merci, au revoir.
Tiens, on va à Saint-Chamond. On a Fatia qui est avec nous. Ah ben voilà. C'est Nicolas qui a raccroché, oui.
Non,
tu
bah j'avais...
Pas, tu ne seras pas payé à la fin du mois, hein, je te reviens.
Oh, t'inquiète pas, c'était pas prévu, je crois. Hein.
Ah bon, alors ça va.
Non, t'inquiète pas.
Bon, alors, docteur Alouche, ce petit ventre, il y a graisse et graisse. Alors, comment on sait de quelle graisse on parle?
Alors ça, c'est une excellente question parce qu'effectivement, il y a graisse et graisse. Quand vous regardez votre ventre, si vous pouvez prendre la poignée, avec une poignée, votre graisse à la main et faire une petite boule, c'est que vous avez de la graisse sous-cutanée. La graisse sous-cutanée est paradoxale parce qu'on ne la trouve pas très jolie, mais elle est assez protectrice.
C'est-à-dire sous la peau, vous voulez dire
Sous-cutanée.
D'accord. Okay.
C'est une graisse qui n'est pas méchante. Elle est liée au stockage, bien sûr, mais elle a un peu d'inconvénients. Par contre, il y a une graisse qui est à l'intérieur, dans ce qu'on appelle le péritoine, c'est-à-dire qui entoure l'intestin, le foie, ce qu'on appelle la graisse péritonéale ou la graisse omentale. Et elle est beaucoup plus active, c'est-à-dire que comme elle a beaucoup plus de vaisseaux sanguins qui arrivent, elle est beaucoup plus active dans son métabolisme. Et quand elle est trop remplie, c'est-à-dire qu'on a grossi et qu'elles sont remplies, et que le tissu adipeux, parce qu'en fait, cette graisse, elle est constituée par des petites cellules qu'on appelle les adipocytes.
Mais on ne peut pas l'attraper ?
C'est-à-dire... Vous ne pouvez pas l'attraper parce qu'elle est à l'intérieur du ventre. Vous savez, c'est les gens qui ont des ventres extrêmement tendus. Ils ne peuvent pas prendre leur ventre à la main comme ça et faire un petit pneu. Ça, c'est une graisse qui est très active et qui, malheureusement, envoie des hormones inflammatoires à qui ? Eh ben ce qu'elle trouve sur son passage, c'est le foie. Et quand le foie est inflammatoire, eh bien, c'est le début des ennuis. Donc, il faut vraiment... Moi, par exemple, j'attache beaucoup plus d'importance au tour de taille qu'au poids. Parce que si vous vous musclez, comme le muscle est très dense, eh ben, vous allez, même si vous êtes en train de faire un petit régime amincissant, et si vous faites de l'exercice, vous allez prendre du muscle qui est plus lourd que la graisse à place égale. Et puis, il faut vraiment essayer de baisser son tour de taille.
Bien, alors on a récupéré Fatia.
Oui, bonjour.
Bienvenue, Fatia.
Bonjour. Merci. Voilà, moi, j'ai un petit problème.
Oui.
Je suis diabétique, j'ai 77 ans.
Oui.
Et, bon, cholestérol, diabète, tension. Mm-hmm. Et là, tous les matins, quand je prends ma, le taux de mon diabète.
Oui.
Je vois que pourtant le soir je mange bien, mais je mange pas.
Oui.
Et je trouve, comme ce matin, il était à 1,31 g.
1,31 g, d'accord. Vous avez une hémoglobine glyquée à combien, madame?
Le soir, des fois, je le trouve, comme hier, il était à 1 g. Avant-hier, 1,25 g. Et il y a 3 jours, il était à 0,66.
D'accord. Écoutez,
le
d'abord...
Le soir, il tombe beaucoup.
Oui. D'abord, je
et
tiens
le matin...
Oui. Je tiens à vous rassurer. D'abord, vous avez des chiffres qui ne sont pas... Des chiffres pour quelqu'un de 77 ans, c'est bien ça?
Ouais, 77.
Oui, oui,
avec un diabète compliqué par une hypercholestérolémie, une hypertension qui, je crois, qui normalement est traitée. Ce ne sont pas des chiffres qui sont inquiétants. Bien entendu, il faut prendre vos traitements. Est-ce que vous avez le chiffre de votre hémoglobine glyquée? Vous savez, c'est en pourcentage. Est-ce que vous l'avez?
Je crois que je l'ai là.
D'accord.
Je vais vous le dire.
Parce que c'est important, parce que ça donne une photographie de l'ensemble de vos glycémies sur 3 mois.
Oui, tous les 3 mois. Oui,
il y a le dossier médical qui arrive là.
Je fais de l'insuline le soir. La taille?
Non, vous êtes à combien?
Je fais de l'insuline.
Vous avez de l'insuline?
Oui, tous les soirs, avant de manger.
D'accord. Vous avez donc tous les soirs... Une insuline lente que vous faites.
Lente, oui.
Voilà.
Lentus, oui.
Et puis, qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous avez d'autres médicaments?
Oui, j'ai le Repaglinide.
Repaglinide, oui.
Pour le diabète.
Qui est un hypoglycémien.
Et Sartan.
Et du Sartan pour l'hypertension. Madame, vous êtes bien traitée. Vous avez un bon traitement.
Oui.
Ce qui, même le fait que 77 ans aujourd'hui, c'est jeune. Donc, est-ce que vous faites un peu d'exercice? Vous bougez, vous marchez, vous...
Eh ben, pendant ces 3 mois de confinement, je suis restée à la maison.
C'est compliqué, c'est sûr.
J'ai failli attraper. Oui. Et parce que moi, j'ai l'habitude de marcher. Mais maintenant, bon, je mets le masque et tout.
Oui.
Je fais un grand tour. Hein.
Je
marche vers les coups de 5h, 6h.
Voilà.
Jusqu'à 7h, je marche et tout et je reviens.
Très bien. Si vous n'avez pas de problème d'arthrose ou d'arthrite, vous pouvez peut-être sortir un peu de votre zone de confort. Et de temps en temps, quand vous marchez, quand vous êtes dans une zone qui est sûre, vous faites des petites accélérations pour un peu mouiller votre chemise. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit un peu, que vous vous dépassiez votre zone de confort. C'est très important, même à 77 ans, l'exercice...
zone de confort? En marchant un peu plus vite?
Un peu plus vite, pendant 1 minute. C'est-à-dire, si vous marchez 1 heure, par exemple, toutes les 9 minutes, toutes les 10 minutes, vous faites 1 minute un peu plus où vous accélérez.
J'accélère, oui.
Voilà. Et comme ça, après, vous recommencez à vous reposer pendant 8...
Faites du fractio.
Voilà, exactement. Et même quand on marche, et même quand on a 77 ans, et je rappelle que 77 ans aujourd'hui, au vu de l'espérance de vie, c'est jeune. Enfin, c'est jeune. C'est pas un âge avancé.
C'est pas jeune.
Et donc, vous avez, pour récapituler, je pense que vous êtes bien traité par votre médecin, que ne vous inquiétez pas si vous avez 1,30 g le matin. Ça veut dire quand même... Peut-être qu'il faudrait qu'il adapte un tout petit peu l'insuline. Cela étant, à 77 ans, avoir 1,30 g le matin, c'est vraiment un bon chiffre. Donc, ne soyez pas trop inquiète. Vous allez plutôt bien.
D'accord.
Mais faites du fractionné.
Vous m'avez dit pour hémoglobine.
Glyqué, oui.
Alors, j'étais à 4,41 g. Après, j'étais à 4,58 g.
Ah oui, non, c'est l'hémoglobine que vous avez dans le sang. Moi, je parlais de l'hémoglobine glyquée. En fait, l'hémoglobine glyquée, c'est la référence pour le diabète, parce que l'hémoglobine glyquée, en fait, c'est normalement entre 5 et 6%. C'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, ça vient dans le sang, on a de l'hémoglobine.
Attendez, qu'est-ce qu'ils ont mis là? L'urée, créatine, potassium, sodium, chlore. Alors, triglycérine, non? C'est pas ça?
Non. L'hémoglobine, mais peu importe, de toute façon, vous avez des bons chiffres. Et même si vous avez 1,30 g le matin, vous avez de toute façon une insuline lente qui vous couvre pendant la nuit. Et je pense que vous avez de bons chiffres, madame. Donc, soyez pas trop inquiète.
Oui, parce que là, hier soir, j'ai mangé une pomme après mon repas.
Oui.
Et j'ai dit peut-être que c'est la pomme ou c'est celui que je prends le matin à jeun.
Non, c'est votre foie
qui...
C'est votre foie qui... Non, c'est pas les levothyroxine, c'est votre foie qui régule la glycémie. Et la nuit, quand on manque un peu d'insuline, il fait du sucre.
Oui.
D'accord ? Parce que c'est l'insuline qui l'empêche de faire du sucre. Donc, en fin de nuit, il se laisse un peu aller, il augmente votre glycémie. C'est normal.
Bien. Et Fatia, le docteur Alouche a dit que vous étiez jeune.
Voilà.
Profitez-en.
Merci beaucoup.
Voilà.
C'est gentil.
Il vous a reconnu. On vous fait un gros bisou,
merci.
Fatia.
Moi aussi, je vous fais
Au revoir,
gros
Fatia.
Bisous. Merci, Fahaïd, comme t'es allé, au revoir.
Voilà, bonne fête de l'Aïd, Fatia. Je rappelle votre titre, le titre de votre livre, docteur Alouche, ça s'appelle « La méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie, notre allié ». Et c'est chez Albin Michel. À bientôt, docteur Alouche.
À bientôt, Philippe, merci de m'avoir.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.